Entretien sur la première épître aux Corinthiens par Henri Rossier, édition 1959, chapitre 10, verset 14 à 11, verset 16. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. Considérez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les sacrifices n'ont-ils pas communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que ce qui est sacrifié à une idole soit quelque chose, ou qu'une idole soit quelque chose? Non. Mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, mais toutes choses n'édifient pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, sans vous enquérir de rien à cause de la conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Or si quelqu'un des incrédules vous convie et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qui est mis devant vous, sans vous enquérir de rien à cause de la conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a averti et à cause de la conscience. Or je dis la conscience, non la tienne, mais celle de l'autre. Car pourquoi ma liberté est-elle jugée par la conscience d'autrui? Si moi, je participe avec action de grâce, pourquoi suis-je blâmé pour une chose dont moi je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne devenez une cause d'achoppement ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Assemblée de Dieu. Comme moi aussi je complais à tous en toutes choses, ne cherchant pas mon avantage propre, mais celui du grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. Or je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi en toutes choses, et de ce que vous gardez les enseignements comme je vous les ai donnés. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou qui prophétise en ayant quelque chose sur la tête déshonore sa tête, et toute femme qui prie ou qui prophétise la tête découverte déshonore sa tête, car c'est la même chose qu'une femme qui serait rasée. Car si la femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Mais s'il est déshonnête pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle soit couverte, car l'homme étant l'image et la gloire de Dieu ne doit pas se couvrir la tête, mais la femme est la gloire de l'homme, car l'homme ne procède pas de la femme, mais la femme de l'homme, car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise. Toutefois, ni la femme n'est sans l'homme, ni l'homme sans la femme, dans le Seigneur. Car comme la femme procède de l'homme, ainsi aussi l'homme est par la femme. Mais toute chose procède de Dieu. Jugez en vous-même Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être couverte? La nature même ne vous enseigne-t-elle pas que, si un homme a une longue chevelure, c'est un déshonneur pour lui? Mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle, parce que la chevelure lui est donnée en guise de voile. Mais si quelqu'un paraît vouloir contester, nous n'avons pas une telle coutume, ni les assemblées de Dieu. La fin du chapitre 10 et ceux qui suivent nous entretiennent d'un nouveau sujet, l'ordre et l'organisme de l'assemblée comme corps de Christ. Pour le corps, comme pour la maison, l'épître aux Corinthiens diffère beaucoup de celle aux Éphésiens. Cette dernière nous montre l'assemblée croissant pour être un temple saint dans le Seigneur. Elle en parle comme d'une habitation de Dieu par l'Esprit. Elle nous la montre aussi comme un corps uni avec sa tête glorifiée dans le ciel. L'assemblée est le corps de Christ selon les conseils éternels de Dieu. Enfin, cette même épître aux Éphésiens parle de l'assemblée comme de l'épouse de Christ, ne faisant qu'un avec lui, les deux n'étant qu'une seule chair, quoique cette épouse lui soit soumise. C'est l'épouse telle que Christ la voit, mais il la purifie ici-bas afin qu'il se la présente sainte et sans défaut dans la gloire. Par contre, comme nous l'avons vu, l'épître aux Corinthiens considère l'assemblée comme une maison édifiée par l'homme, responsable des matériaux qu'il y introduit, et de l'ordre qui doit y régner. Si nous la considérons au point de vue du corps de Christ, cette épître nous présente aussi toute autre chose que celle aux Éphésiens. Nous y voyons le corps, de même que la maison, au point de vue de sa responsabilité, de la manière dont il doit fonctionner pour manifester Christ ici-bas. Cette pensée est développée dans tous les chapitres que nous allons considérer jusqu'à la fin du chapitre 14. Il faut que l'assemblée manifeste le fonctionnement et l'unité qui appartiennent au corps de Christ. Vous comprendrez aisément l'immense importance pratique de ce point de vue, car, ne fussions-nous que trois ou quatre, nous sommes tenus de représenter l'unité du corps de Christ dans ce monde et l'ordre qui appartient à cette unité. C'est pourquoi le rôle assigné à la table du Seigneur est très remarquable dans les versets 14 à 22 du chapitre 10. Il s'agit, en tout premier lieu, d'établir qu'il y a, dans ce monde, une manifestation de l'unité du corps. Cette unité existe, ce n'est pas à nous à la faire. Il y a, est-il dit dans l'épître aux Éphésiens, un seul corps et un seul esprit, c'est ce que Dieu a fait. Mais nous sommes ici-bas, et nous avons à manifester cette unité devant le monde. De fait, il n'y a qu'une seule place où elle puisse l'être, c'est la table du Seigneur. Le seul pain que nous avons sur cette table et auquel nous participons tous est le signe visible que nous sommes tous un seul corps. Que le monde veuille ou ne veuille pas le voir, cela n'y change rien. Il y a ici-bas un témoignage, le seul qui puisse être rendu à cette unité, un témoignage établi de Dieu. Voilà ce qui fait, en partie, car nous ne parlons pas encore ici de la scène comme mémorial, voilà ce qui fait la valeur de la scène du Seigneur pour nous. Nous ne devons jamais l'oublier. Si nous ne nous réunissons pas autour de la table du Seigneur pour participer à ce seul pain, nous montrons une indifférence coupable au sujet de la manifestation de l'unité confiée à notre responsabilité. Mais, en lisant ces versets, nous pouvons nous rendre compte d'un autre fait, c'est qu'on pourrait être réunis comme chrétiens autour de cette table sans manifester l'unité du corps. Je crois que ce fait est important et parle à nos consciences. Une assemblée, comme celle des Corinthiens, moralement divisée, en mauvais état spirituel, pleine de compétition, de querelles, sans union pratique, peut-elle prétendre à manifester l'unité à la table du Seigneur? Absolument pas. L'apôtre dit « Je parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. » Verset 15. Si la table du Seigneur est l'expression de l'unité du corps de Christ, nous n'avons pas le droit de dire que nous avons cette table et manifestons l'unité du corps quand pratiquement nous sommes désunis. Car, notez-le bien, toute cette épître traite, non pas comme celle aux Éphésiens, de ce qui est dans les conseils de Dieu, mais de notre responsabilité et de la manifestation pratique de ce que Dieu a établi. Nous pouvons donc perdre, par notre faute, l'immense privilège d'annoncer la vérité capitale qu'il y a dans ce monde un corps de Christ dont tous les chrétiens, unis ensemble, font partie. Grâce à Dieu, ce corps reste un à ses yeux. Mais si nous sommes infidèles, il ne pourra plus l'être aux yeux du monde, et quelle perte en résultera pour le Seigneur et pour son témoignage. Il est dit au verset 16
« La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps du Christ ?»
À ce propos, je voudrais faire remarquer que la communion a deux caractères. Dans la première épître de Jean, au chapitre 1, vous trouvez que, en vertu de ce que nous possédons la vie éternelle, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La communion nous y est présentée comme une jouissance et une part commune avec le Père et le Fils. Nous jouissons du Fils comme le Père en jouit, et du Père comme le Fils en jouit, et nous pouvons participer à tout ce qui est leur part. Dans notre chapitre, la communion est la participation des croyants en commun à toutes les bénédictions qui nous ont été apportées par le sang de Christ. C'est une notion d'une étendue moindre que celle de Jean, et cependant une bénédiction immense. Vous trouvez la coupe d'abord et le pain ensuite, car c'est le sang de Christ qui nous introduit dans toutes ces bénédictions. C'est par son sang que nous sommes rachetés, justifiés, sanctifiés, que nous avons obtenu la paix, que nous entrons dans le sanctuaire, que nous sommes amenés à Dieu, que nous sommes capables de nous tenir devant lui, sans conscience de péché. En un mot, le sang de Christ est toujours la source et le point de départ de tous nos privilèges. La coupe est une coupe de bénédiction. Nous avons communion à ce sang, c'est-à-dire que nous avons la jouissance, et cela en commun, de tout ce que ce sang nous apporte. Et alors, comment ne pas bénir cette coupe? Le pain que nous rompons est la communion du corps du Christ. Nous avons une participation en commun à ce corps, et nous nous identifions avec lui. Quand le seul pain est posé sur la table et que nous le rompons, nous manifestons en commun que nous faisons, tous ensemble, partie de ce seul corps. Nous manifestons l'unité. Au chapitre 11, le sang et le corps signifient ensemble la mort, le sang séparé du corps. Quand nous prenons part à la scène, nous annonçons sa mort, et nous faisons le mémorial de lui-même et de ses souffrances. Je n'entrerai pas beaucoup dans les détails de ce qui suit. L'apôtre met la table du Seigneur en regard de l'autel juif et en opposition avec la table des démons. Il nous montre alors que, si l'idole n'est rien en elle-même, derrière l'idole, chose grave, se cachent les démons, et il ne veut pas que les chrétiens soient assis à la table des démons. Le païen a communion avec les démons. Le juif, qui a part au sacrifice, a communion avec l'autel. Le chrétien, qui a part à la table du Seigneur, a communion avec Christ. Avons-nous à cœur de manifester l'unité du corps de Christ, ou ferons-nous comme le monde allant où bon nous semble? Soyons donc intelligents et ne provoquons pas le Seigneur à jalousie. Les versets 23 à 33 nous exhortent à ne pas rechercher chacun son propre intérêt, mais l'intérêt d'autrui. N'est-ce pas la conséquence naturelle du fait que nous sommes un seul pain, un seul corps? L'apôtre termine en disant « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Verset 31. Je m'arrête sur ce passage. Un chrétien qui a une conscience délicate et timorée se demande souvent « Est-ce bien ou mal de faire ceci ou cela ?» Je ne pourrais le lui dire, mais il trouve dans la parole de Dieu une règle parfaite, s'adaptant à toutes les circonstances de sa vie, au manger et au boire, au repos ou à l'activité, à la maison ou au voyage, à une invitation ou à une fête, aux relations avec le monde, à tout enfin, et cette règle, c'est la gloire de Dieu. Comment puis-je faire ces choses à la gloire de Dieu? En imitant le Seigneur dont c'était la mesure. Paul dit « Soyez mes imitateurs comme moi aussi je le suis de Christ. » Chapitre 11, verset 1. Dès lors, tout est simple. Quand je prends la même règle en main, elle me dirige sans hésitation, sans inquiétude de conscience. Elle devient la source de toute la conduite du chrétien dans ce monde. Il est dit aussi, « Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Colossiens 3, verset 23. « Ce que je fais, est-il bien ou mal? Est-ce que je le fais pour lui? Si, par exemple, j'entre dans telle maison, si je fais telle visite, est-ce pour Christ? Si, pour faire une visite, je suis obligé de supprimer le Seigneur, pourrais-je y consentir? Ne ferais-je pas mieux d'y renoncer? Oui, certes. Je ne puis laisser mon Seigneur à la porte, comme on laisse son manteau dans le vestiaire. Christ mérite une autre place. S'il a cette place dans mon cœur, il faut que je le porte avec moi. De cette manière, nos plus simples relations sont absolument réglées. Que Dieu nous donne de répondre à ses pensées à cet égard. S'il en est ainsi, tout ira bien dans notre vie et Dieu sera glorifié. Passant de là au chapitre 11, versets 2 à 16, l'apôtre aborde une question qui, à première vue, semble secondaire, et que, peut-être, je le pense, les Corinthiens avaient provoqué. Une femme doit-elle prier la tête couverte ou découverte? C'est un petit détail, mais auquel Dieu attache une grande importance. Sans doute, il avait besoin d'être connu parmi les Corinthiens, car l'apôtre dit « Je veux que vous sachiez ». Je me suis souvent demandé pourquoi ce détail nous est donné à cette place. La réponse est que, lorsqu'il s'agit de la gloire de Christ, rien n'est sans importance aux yeux de Dieu. Qu'une femme prie la tête couverte ou découverte, Dieu s'en enquiert. Cela touche, en type, au rapport de Christ avec l'assemblée, de l'époux avec l'épouse. Nous retrouvons ici, sous un autre caractère, la relation dont parle l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 10,
« Afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée. »
Et ici,
« La femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise. »
Verset 10. Ainsi, quand les anges ont les yeux sur la femme soumise à son mari, ils voient et apprennent à connaître la sagesse si diverse de Dieu. Dieu a voulu leur donner, dans le spectacle de la femme qui a la tête couverte, un exemple de la soumission de l'épouse à son époux, de l'Église à Christ. Telle est la raison, je n'en doute pas,
pour laquelle cette question nous est présentée ici, quoiqu'il s'agisse, dans l'espèce, d'un détail particulier de la conduite des femmes dans les assemblées. L'apôtre donne trois raisons pour que la femme reste couverte. Il trouve la première dans la création. L'homme ne procède pas de la femme, mais la femme de l'homme, car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Versets 8 et 9. La seconde dans la nature. La nature même ne nous enseigne-t-elle pas que, si l'homme a une longue chevelure, c'est un déshonneur pour lui, etc. Verset 14. La nature est appelée comme témoin que la femme doit avoir sur la tête le signe de la soumission à son mari, comme cela s'accorde peu avec les idées féministes d'aujourd'hui. On trouvera toujours des femmes prêtes à discuter, car il leur plaît toujours moins d'être mises dans une place de dépendance. L'apôtre leur donne, pour leur fermer la bouche, une troisième raison, la coutume.
Si quelqu'un paraît vouloir contester, nous n'avons pas une telle coutume ni les assemblées de Dieu.
Un certain ordre, une certaine décence, dépendant de l'habitude, doivent être observés dans les assemblées de Dieu. Il s'agit donc là, non seulement de la place donnée à la femme dans la création et selon la nature, mais il s'agit de l'ordre dans l'Église, de ce qui convient à l'assemblée vis-à-vis de Christ. L'apôtre ajoute au verset 11 «
Toutefois, ni la femme n'est sans l'homme, ni l'homme sans la femme dans le Seigneur. »
Il ramène au niveau commun la position respective de l'homme et de la femme, car, dans le Seigneur, la femme est au niveau de l'homme, et ce dernier ne peut songer à tyranniser sa compagne. Elle est l'aide de l'homme, et celui-ci est son soutien, mais ils sont unis dans le Seigneur. Il y a donc un ordre à observer dans les rapports entre époux, afin que celui qui est le Seigneur de tous soit glorifié dans l'assemblée.